on est dans le mag politique. On va rentrer dans le cœur de Bruxelles. Si je pars avec l'accent du Sud-Ouest, c'est parce qu'on a un rugbyman pour le gros Jean qui est dans le studio.
Un rugbyman, peut-être qu'un jour, il y aura un club professionnel à Bruxelles. On ne sait jamais. On peut rêver dans le championnat de France, dans le top 14. Pourquoi pas? Mais c'est Philippe Clouse.
Mon Dieu.
Oui,
je ne le voyais pas aussi grand, moi, je vous avoue.
On pourrait dire, mais c'est trop facile, un poids lourd du Parti Socialiste. En France, on aurait dit un éléphant, sauf qu'il est encore jeune, puisqu'il est né il y a 50 ans. Pas dans la bonne capitale, puisqu'il est né à Namur. Mais c'est l'autre capitale, ceci dit, une très belle ville, Namur. Un très bon bourgmestre, Namur.
Tout à fait, voilà. J'entends très bien
voilà.
avec lui.
C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a constaté.
Ça chire les chaussures ici. Alors,
il
va pas.
Oui, mais il habite Bruxelles, je vous rassure, depuis l'âge de 10 ans. Il connaît bien l'avenue Louise, on peut en parler, puisque nous sommes avenue Louise.
Et qu'il y habite.
Oui, il habite.
Et que j'y ai grandi.
Il a grandi, absolument. Et il n'a pas peur de dire qu'il aime bien l'avenue Louise. Ce n'a pas toujours été le cas de tous les bourgmestres socialistes. Je ferme la parenthèse. Alors, les humanités dans l'enseignement de la ville de Bruxelles, quelle école
Alors, je vais le Cato, mais j'ai été un peu renvoyé de Cato. Donc, j'ai été
une bonne école catholique, c'est l'école
Cato. L'école Robert Cato. Oui, et puis après, j'ai été dans l'enseignement officiel de la commune d'Ixelles. J'étais à Charles-Janssens.
Là, vous avez pris l'option plasticine ou piquetage.
Non, ça m'a sauvé. Franchement, je ne remercierai jamais le préfet de la BAC.
Un peu de respect pour notre bourgmestre, parce qu'il est quand même licencié en droit de l'ULB.
Ouais, c'est un juriste. 5 ans de droit, comme disait Coluche.
Et le reste de travers. Tout à fait.
Et il est un peu, comment dirais-je, un enfant de Roger Lallemand, qui était la conscience du Parti Socialiste, un homme assez exceptionnel, le papa de Pierre Lallemand, grand architecte, il faut le rappeler, un grand monsieur, ce Roger Lallemand, et en 99, donc, il est engagé par Elio Di Rupo au sein de l'IEV, l'Institut Émile Van der Velde, c'est vraiment le cœur du réacteur socialiste, qui est évidemment une machine de guerre.
Les stratèges.
Oui, des gens très intelligents qui sortent là. Il a été porte-parole d'Elio en 2000, ça il ne faut pas l'oublier, et en 2001, il devient le directeur de cabinet du nouveau bourgmestre de la ville de Bruxelles, Freddy Tielemans. Maintenant, blague dans le coin, Freddy Tielemans, c'est peut-être l'homme politique le plus cultivé que j'ai rencontré dans ma vie.
Énorme.
C'est un type exceptionnel.
J'ai jamais vu quelqu'un lire autant de livres, moi.
Voilà.
J'ai toujours épaté. Et il parlait, dans toutes les langues.
Plus combien de langues.
Il en parlait quasi parfaitement 6.
Incroyable.
Il est obligé de tourner 42 fois dans sa bouche avant de parler.
Et il nous manque, Freddy Tielemans, ça c'est clair. Moi, je pense aussi au Mébaume, par exemple. Il faisait aussi partie du folklore.
Personnage folklorique, il y avait le grand Jojo, lui. C'est vrai.
Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer donc, la culture de Freddy Tielemans.
Je
n'ai
jamais contesté la culture.
Et c'est à ce moment-là, évidemment, que Philippe Clouse découvre les réalités de la ville de Bruxelles. Donc, en tant que chef de cabinet, je crois qu'il n'y a pas meilleure école. Et en 2006, il se présente pour la première fois aux élections communales. Et il est élu. Et il devient échevin du personnel et du tourisme, et puis il s'occupe des finances. En 2009, il est élu au Parlement régional, et en 2013, il est le chef du groupe PS au Parlement régional. Alors en 2017, après quelques aléas liés au bourgmestre précédent, il devient le bourgmestre de Bruxelles. Je rappelle, c'était Yvan Mayer qui avait été le bourgmestre avant lui, et il doit démissionner à ce moment-là du Parlement bruxellois. Et en 2018,
je décide de décumuler.
Oui, c'est juste.
Je ne suis pas obligé de le faire.
Il faut être précis dans la vie.
Non, mais c'est un choix personnel de l'avoir fait.
Mais il doit, selon sa conscience personnelle,
je m'astreins à le faire.
Et alors, bon, là où ça devient un peu exceptionnel, c'est son score en voix de préférence en 2018. Donc 8501 voix de préférence, si je ne m'abuse, ce qui était même, je crois, inattendu.
Ah, j'étais pas du tout, et j'étais quand même très fier, j'en ai fait, je crois, 15 de moins que le record historique de Freddy Tielemans. Donc voilà. Moi, je ne l'ai pas dépassé,
Même si la campagne avait été dynamique, qu'il y avait eu des réalisations.
Je ne m'attendais pas à ça.
Voilà, objectivement, on ne pouvait pas s'attendre à ça, et tant mieux, évidemment, ça a conforté le pouvoir de Philippe Clouse, qui est d'ailleurs devenu en 2019 vice-président du PS. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, de temps en temps, sur les plateaux télé.
On le voit beaucoup.
Il s'exprime en tant que vice-président.
Petit costume bleu électrique, hein, donc oui.
L'avantage, c'est qu'évidemment, un socialiste bruxellois, c'est plus facile à faire venir en studio qu'un socialiste d'Arlon, forcément. Mais il représente également le parti au niveau, je dirais, national. Et donc, on pourrait dire, en synthétisant la chose, que c'est un homme courageux, un homme engagé, loyal, très ouvert, c'est important. Et moi, je le qualifie de véritable social-démocrate. On peut le dire comme ça, monsieur le bourgmestre.
Ce n'est pas un gros mot.
C'est pas un gros mot. Alors, on demande évidemment à chacun de nos bourgmestres de la région bruxelloise de un peu raconter leur commune. Alors, monsieur le bourgmestre, si un martien arrive sur la Grand Place et que vous devez lui présenter votre commune, votre belle commune de Bruxelles 1000, qu'est-ce que vous lui dites?
La première chose, c'est qu'à part des personnes venant de Mars, il va rencontrer des personnes du monde entier. On est quand même la ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï, donc devant Paris, New York, Londres, 184 nationalités.
Incroyable.
Et c'est un vrai atout. Le fait d'être cette capitale de 500 millions d'Européens, Bruxelles, le fait d'avoir toutes ces expatriés qui travaillent chez nous, qui sont aussi des Bruxellois. Je leur dis souvent, ben, vous avez plein d'origines, mais ce n'est pas très important d'où vous venez. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, pour vous rendre compte, il y a quand même 35% des Bruxellois qui n'ont pas la nationalité belge. Dans ces 35%, c'est 82% d'Européens. Donc on est vraiment devenu cette capitale, le monde entier vient chez nous. Et quand vous vous promenez dans Bruxelles, que vous venez de partout, peut-être pas de Mars évidemment, vous avez d'office quasiment quelqu'un qui vient de votre pays, qui peut vous guider, qui peut vous montrer les choses. Et ça,
peut-être un restaurant de son pays également.
Ben, rien qu'au conseil communal, je crois que j'ai plus de 10 nationalités qui sont présentes, en plus de la nationalité belge. Parce que dans les 60%, les 65%, il y a tous ceux qui ont plusieurs passeports. Tout cela, je ne les compte même pas. Donc c'est incroyable parce qu'on est devenu la ville internationale du monde.
On va s'écouter un peu de musique et on va découvrir comment on peut devenir numéro 1 et dépasser Dubaï, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas la ville la plus cosmopolite du monde?
Dubaï, c'est un peu artificiel.
Un peu de musique, ça vous va, le pop rock, Philippe Close?
Alors, j'écoute de la musique qui va très fort, moi, d'habitude. Mais donc, tout me va.
Bon, on va mettre tout ça.
C'est votre femme qui nous en a parlé, voilà, d'ailleurs.
On va mettre le groupe à Koufen. Alors. On retrouve le Mac politique avec Bruxelles. Pas de quartier avec Philippe Close. Et quartier, Paul, il va falloir en choisir.
Il y a tellement de quartiers à Bruxelles. Si je devais les citer, ça va prendre une minute facilement. Il y a le Pentagone, évidemment. Il y a le quartier royal, les Sablons.
Mais t'as dit que tu ne les citerais pas, donc ne les cite pas.
Les Marolles. Mais je choisis au hasard Tour et Taxi. Voilà. C'est quand même une réussite urbaine incroyable, Tour et Taxi.
Ben, Tour et Taxi est le quartier Tivoli qui a été développé par CityDev et qui a reçu le prix du quartier le plus durable du monde, où on retrouve à la fois du logement, à la fois des industries, c'est important l'industrie en ville, à la fois des équipements, des écoles, des crèches, il y a plus de 8 écoles qui sont autour de ce quartier. Mais Tour et Taxi, par exemple, souvent les gens me disent, oh, moi je descends plus en ville, ça ne va plus, et ça. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que l'événement le plus chic de Bruxelles, qui est la BRAFA, qui malheureusement vient d'annoncer qu'il était annulé, ça a lieu en plein cœur de Bruxelles, à côté du canal. Donc si quelqu'un a déjà pu se rendre à la BRAFA, c'est quand même un événement qui, dans ce quartier maritime qui a souvent été décrié, a réussi à trouver son écrin. Donc on a réussi là, public et privé, à développer quelque chose ensemble.
Ah, j'aime bien le côté privé, parce que le privé est intervenu beaucoup, comme un flagellant par exemple. Alors, est-ce que c'est ce mix-là qu'il faut plus réussir à Bruxelles?
C'est une bonne question.
En fait...
Oui et non.
C'est pas que c'est un choix. Il faut voir les opportunités. Il faut pas avoir à un moment donné un blocage de le privé c'est toujours mauvais et le public c'est toujours trop lent. Je pense qu'on peut trouver des bonnes choses des deux côtés. Ce qui était très important, c'est que l'État se réintéresse à Bruxelles. Pendant longtemps, on était une capitale pas très aimée par son pays. On était une ville d'usage, une ville de passage où on n'investit pas. Et donc, dans les années 50, c'était des grandes autoroutes urbaines où, dans le fond, Bruxelles s'est vidée jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, on a un boom démographique où de plus en plus d'habitants viennent à Bruxelles. On a d'ailleurs un boom de l'immobilier qu'il faut gérer. Mais on sent que nos quartiers sont en plein développement. On le voit, il y a de plus en plus de développeurs immobiliers qui s'intéressent à nous. Et nous construisons aussi de plus en plus d'équipements, d'écoles, de crèches, de centres culturels, de centres sportifs avec les moyens publics. Donc, on est en train de trouver un schéma vertueux qui permet de redonner envie de Bruxelles. Je crois que c'est une des grosses forces, c'est qu'aujourd'hui, Bruxelles gère son aménagement du territoire. Et ça a été vraiment la grande révolution de 89, notamment avec Charles Piquet, qui était de redéfinir cette politique des quartiers.
Mais au niveau régional, vous parlez du niveau régional?
Oui, ça a toujours été une articulation entre les villes et les communes. Pourquoi? Parce que les gens sont quand même... En fait, à Bruxelles, on est assez peu attaché à dire « je suis de telle commune ». Par contre, on est content...
Hugues Loi, il dira qu'il vient d'Hugues, qu'il n'habite pas Bruxelles.
Hugues est une particularité spéciale, en effet. Mais le reste... Qu'est-ce qu'on aime? C'est d'avoir les services de proximité. Et ça, les communes, on l'a vu dans cette crise, ont ces services de proximité. Après, dans une vision globale, c'est intéressant d'avoir une belle articulation avec la région. Et donc, ce serait même intéressant d'avoir une articulation avec l'Interland de Bruxelles. Mais honnêtement, aujourd'hui, on est plus dans la solution que dans le problème.
Je crois qu'on peut quand même saluer l'action de Philippe Clos sur un plan, c'est qu'il y a une vraie entente entre la ville et la région, ce qui n'a pas été toujours le cas auparavant. Et ça, je crois que c'est pour le bien de tout le monde, finalement.
Ben, je dis souvent, nous les élus, on n'est quand même pas là pour se chamailler par rapport à la population. On doit avoir nos convictions. Ben non, c'est une image pour le moment. Je sais bien que c'est compliqué. Alors en même temps, il faut défendre des positions. En Belgique, on a le système inverse de la France. On a un système de démocratie représentative fédérale et proportionnelle. Donc on est plutôt un modèle allemand. Enfin, le modèle allemand n'est pas connu non plus pour être un modèle qui ne fonctionne pas. Mais par contre, c'est notre boulot de trouver les solutions. Et donc, c'est un peu ça, je dis toujours à mes équipes, on ne doit pas montrer nos dissonances, on doit fixer un objectif, mais surtout on est là pour trouver des solutions.
Alors évidemment, il y a d'autres quartiers qu'on pourrait citer. Enfin, pour revenir à Tours et Taxi, il y a un bel exemple de partenariat public-privé, c'est la gare maritime. Ça, c'est quand même, en termes architectural notamment...
C'est somptueux.
Hein, c'est très très beau. Hein.
J'ai eu la chance de l'inaugurer avec Sa Majesté le Roi et Luc Bertrand, qui est la personne qui est l'actionnaire de référence du groupe qui gère ça.
Le papa d'Alexia.
Oui, tout à fait. c'est vous qui l'avez dit, hein, je ne l'ai pas dit.
Rien dit.
Et c'est vrai que je lui ai dit, écoutez, Luc, moi, vous venez quand vous voulez investir à Bruxelles.
Parce comment s'appelle ce groupe
C'est Ackermann van Haaren. Et c'est vrai que. Alors, il y a tout un débat, parce que c'est vrai que le pouvoir public, à la base, possédait les lieux, il les a revendus au privé. Mais moi, je ne suis pas là pour refaire toute l'histoire. Je suis là pour dire qu'aujourd'hui, ce quartier vit. Nous y avons investi, puisque nous avons aussi des logements publics qui sont dans le quartier. Nous allons y construire une école secondaire, aussi dans le quartier, une école publique. Nous sommes en discussion pour ça avec Extensa, qui est en fait l'extension qui gère le lieu. Et pour le reste, bah oui, c'est vraiment ceux qui n'ont pas encore vu la gare maritime doivent aller le voir.
Il y a un food market qui vient de s'ouvrir dans l'esprit
Ouais, c'est une réussite incroyable et qui a su préserver le patrimoine. La preuve aussi que mettre la modernité dans le patrimoine n'est pas incompatible. Souvent, on veut du patrimoine qui est juste conservateur. Et en fait, on peut amener de l'architecture contemporaine tout en dénaturant pas le patrimoine.
Mais il faudra amener le métro jusqu'au pied de Tours et Taxi, ce serait parfait, mais ça c'est compliqué.
Il y a un tram qui doit être prévu, donc il y a une passerelle qui est en train d'être finalisée, qui est la passerelle Picard, ça a mis beaucoup de temps, et qui doit relier en effet la gare du Nord en passant par la rue Picard et en pénétrant dans le site.
Voilà, c'est très bien. Donc pendant que Hugues est un ancien coéquipier de Philippe,
le monde est petit.
Il y a le quartier du Marais aussi à Bruxelles, parce qu'on parle du quartier du Marais en France, à Paris évidemment, à Place des Vosges, mais aussi le quartier du Marais à Bruxelles, Marais Jacquemin, n'est-ce pas? Ça rebouge aussi.
Moi je ne sais pas où le quartier Marais.
C'est la place des Martyrs, c'est la rue Neuve, c'est la place de Brouckère, ça va jusqu'au Botanique normalement.
C'est tout le quartier un peu qui est en dynamique. On a annoncé tout le redéploiement du parc Maximilien avec un grand projet avec la région de faire ressortir la Seine. Alors en fait, on travaille sur le pertuis, puisque vous savez que la Seine est couverte, mais de remettre un cours d'eau sur 650 mètres à cet endroit-là. Où on va reconstruire aussi, il y a ce fameux musée Canal qui va être là.
Ah, ça c'est incroyable.
Le chantier a commencé et pour ressortir la Seine, je vous conseillerais un architecte de Papincet qui pourra vous y aider. C'est une petite plaisanterie. On va s'interrompre avec un
peu. C'est le Verviétois qui parle.
Mais c'est l'ancien Verviétois qui parle et qui souffre pour sa région. On va se retrouver un peu de musique. Toujours pas prank, ça va ça?
Toujours quoi?
Pop-rock.
Pop-rock, c'est toujours parfait.
Et puis teasing, c'est quoi le prochain sujet, Paul?
Le patrimoine. On va parler du patrimoine, puisqu'on va vers le bicentenaire de la Belgique, et là, il faudrait quand même qu'on parle du patrimoine.
On va parler de moi, alors. Allez, à tout de suite. On est parti dans le Mac politique, je l'ai bien dit, Paul, c'était ça?
Fantastique, c'est la première.
Hein. Alors, on va parler d'une ville où les portes n'ont jamais été aussi ouvertes depuis que le bourgmestre s'appelle Philippe Claus.
Hein. Oui, absolument. Oh, c'est bon.
C'est tellement bon.
je m'en remets pas d'ailleurs. Non, on va parler de patrimoine, c'est trivial presque quand on parle de Bruxelles 1000, évidemment.
Ça va être frustrant.
Oui, on ne pourra pas parler de tout. Mais il y a quand même donc cette perspective du bicentenaire, j'y reviens. Et on pourrait parler du cinquantenaire. Justement, monsieur le bourgmestre, il y a quand même, là ça bouge, pour une fois ça bouge, et même au niveau fédéral d'ailleurs.
Je crois que c'est ça qui est important, c'est que le cinquantenaire porte bien son nom, il a été bâti pour les 50 ans de la Belgique, et là pour les 200 ans de la Belgique, et donc en 2030. Thomas Dermine, le ministre fédéral, a vraiment un grand projet dans lequel il associe la ville, la région, ma collègue Karine Lagneux qui gère Bédéris, pour réfléchir justement au développement, au redéveloppement de ce musée qui, reconnaissons-le, a vraiment en train de prendre la poussière. Or, on a des équipes scientifiques extraordinaires là-bas, on a des collections qu'on pourrait mettre en avant, et ce bâtiment mérite pour 2030 d'être vraiment réhabilité.
Et puis tout le site du cinquantenaire qu'il faut essayer
C'est un parc sublime, vous avez l'école royale militaire, vous avez les musées royaux d'art et d'histoire, le musée de l'armée, tout ce qui est autour, les différents pavillons. Vous avez le pavillon de Jeff Lambeau avec les passions humaines. Vous avez une mosquée qui est dedans, quand même donnée à l'époque.
Elle va rester là-bas ou...
Oui, elle va rester. Elle a heureusement été récupérée, elle a été enlevée des mains de l'Arabie Saoudite pour être gérée
par
les musulmans de Belgique, ce qui est quand même un peu plus malin. Mais honnêtement, c'est un parc incroyable, près des institutions européennes. Et donc, Paul Dujardin, l'ancien directeur de Beaux-Arts, a reçu une mission du fédéral pour pouvoir redynamiser ce lieu. Et je crois vraiment que le boulot que fait Thomas Dermine est important et va fédérer aussi les Belges. L'idée, c'est d'avoir un lieu où on fédère, où on ne crée pas spécialement un nouveau bâtiment, mais on en réhabilite
un. Un autre bâtiment très célèbre sur Bruxelles Ville, c'est le Palais de Justice, évidemment. C'est peut-être pas directement la ville qui est concernée, mais enfin, c'est quand même...
Sûr.
Voilà.
Moi, je considère toujours que tout ce qui est sur notre territoire, on est concerné. Et si vous regardez le conservatoire, on a fait un gros combat pour signer l'accord. Aussi, le conservatoire qui était dans un très mauvais état, c'est aussi Karine Lallieu qui a permis de vraiment finaliser.
Il y a plusieurs. Le petit Sablon, il y en a un qui est du côté de la porte de Namur, c'est ça ?
Rue de la Régence.
Oui, rue de la Régence. Mais c'est vraiment celui de la Régence, à côté de la grande synagogue. Et alors, le palais de justice, bah, j'ai entendu les déclarations du secrétaire d'État à la régie qui voulait vraiment faire avancer, en tout cas
Mathieu
enlever.
Michel.
Voilà,
pas inquiétant, ça, que ce soit Mathieu Michel qui s'en occupe, je dis ça en rien.
Moi, en tout cas, tous ceux qui veulent s'occuper du patrimoine
à Bruxelles. Il va faire repeindre les échafaudages, mais qu'est-ce qui va se passer d'autre ?
Bah, je pense qu'il faut enfin le rénover, c'est comme un bâtiment
c'est
majeur.
C'est comme un coup de poing dans la gueule. Hein,
et il faut féliciter Jean-Pierre Beul, l'ancien bâtonnier, qui, avec la Fondation Poulard, inlassablement réinterpelle ministre après ministre, avec une vraie méthode, ce qui est vraiment, Jean-Pierre, que j'ai eu la chance d'avoir comme prof à l'ULB, c'est vraiment quelqu'un qui agit avec méthode, et il faut souligner que si les choses bougent sur le palais de justice et la place Poulard, c'est grâce à Jean-Pierre Beul.
Je ne le savais pas, je suis ravi de l'apprendre. Vraiment.
Une autre pépite du patrimoine bruxellois, c'est la Bourse de Bruxelles.
Alors là c'est fait.
Musée de la bière, il n'y a pas moyen de faire autre chose qu'un musée de la bière, franchement.
D'abord, moi je suis très fier, parce que la bière fait partie de notre patrimoine, ça n'est pas que le musée de la bière, la bière occupera un quart du bâtiment. C'est d'abord un bâtiment qui était fermé au public. La plupart des gens n'étaient jamais rentrés dedans avant 2010.
Je connais. J'étais dans les bourses de beaucoup de gens, mais pas dans celle-là.
Et je vais vous en faire une. Calmez-vous. Moi, c'est que quand même, en 2010, quand avec Friedel Tillmans, on a racheté le bâtiment, pour des socialistes, racheter la bourse, c'était quand même un grand moment important.
Grande fête.
Mais au-delà de ça, on sauve un patrimoine qu'on va ouvrir aux Bruxellois. Et en même temps, de nouveau, un peu comme la gare maritime, on y injecte quelque chose de très contemporain.
Et ce sera quoi alors ?
Alors, dedans, vous aurez une grande galerie dans laquelle les gens pourront passer, comme la célèbre galerie Saint-Hubert, en fait. On pourra vraiment traverser de la Grand Place vers le piétonnier à travers le bâtiment. Et pour ceux qui le voudront, ils pourront visiter aussi l'expérience autour de la bière belge, qui est quand même notre patrimoine avec
ça,
le chocolat. Et alors autre chose, c'est qu'il y aura une brasserie au rez-de-chaussée et sur le rooftop. On aura vraiment une vue imprenable, vraiment depuis le toit de la Bourse. Et on aura des expos temporaires également dedans, parce qu'on en fera un grand lieu de culture aussi.
Il y a un calendrier qui est prévu ?
Oui, on va inaugurer tout ça en 23. Les travaux sont en plein cours. Si vous allez devant la Bourse, vous allez voir qu'on est parti. Des grandes entreprises belges, sont des architectes belges, des entreprises belges qui sont occupées. Je suis aussi très fier de ça.
Bruxelloise ou belge ?
Belge. Alors, dans les architectes, il y a dans le consortium un couple d'architectes bruxellois aussi.
Qui sont, on peut les citer.
Alors, c'est Paul Robrecht, Robrecht & Dams, qui s'est associé au cabinet Popov et Banneton qui ont remporté le marché.
On dirait une pièce de théâtre.
On dirait le cirque de Moscou.
Vous savez, il y a deux choses qui m'ont toujours épaté. À propos, vous avez raison, il y a deux choses. C'est les noms des agences de publicité, qui je trouve sont toujours d'un marketing désastreux, avec des espèces d'acronymes absolument illégibles, et les noms de boîtes d'architectes, qui sont souvent le nom des architectes.
En général, c'est des publicitaires qui sont transformés en architectes.
Peut-être.
Et je voudrais aborder le sujet qui fâche, mais sous l'angle du patrimoine.
S'il te plaît,
si. Oui. Le bois de la Corbe est un patrimoine classé.
Exact.
Et donc, moi, je ne vais absolument pas rentrer dans la querelle sur la mobilité. Ce n'est pas ça le sujet pour moi. Mais c'est l'aspect classement. Et là, je suis un peu déçu, monsieur le bourgmestre. Quand je vois ces blocs de béton dans le bois de la Corbe...
Tu n'aimes pas la couleur ? Tu n'aimes pas la couleur ?
Je critique pas le plan de mobilité, si je puis dire, mais par contre, l'aspect esthétique laisse à désirer.
Alors, on attend d'avoir la décision définitive, puisqu'on est dans un processus participatif où, avec les 4 communes concernées, même les 5, puisqu'on a ajouté Rode-Saint-Genève et même 6, Linkebeek, on a décidé de ne rien figer tant qu'on n'avait pas fini le processus et les études. Donc, on est dans quelque chose de provisoire, et vous avez raison, ça n'est pas beau, mais avant de tout réaménager, on ne veut pas prendre en traite ceux à qui on disait on va d'abord se concerter, et donc on arrivera à un aménagement plus définitif quand on aura finalisé les études qui ont, c'est vrai, été reportées à cause des périodes de corona.
Et là, il y aura un bel aménagement.
Si évidemment, donc, et on est déjà prêt à trouver les moyens pour cela.
Très bien, on va s'écouter un peu de musique, et je négocie sur son accord avec Amsureur pour arranger pour le bois de la Corbe, comme ça s'arrangera aussi. Je fais toujours un carolo et un côté serein pour que ça marche. Un peu de musique, pas proc, toujours, et puis on retrouvera l'invité de Philippe Claude.
Françoise.
On est dans le Mac politique avec Bruxelles. Avec Philippe Claude, il est à la fois il est chef de la fanfare de la Grand Place, il a le football de Bruxelles, il est responsable de la police, des pompiers, de BME, du parc d'exposition de Bruxelles,
il
est administrateur d'Anderlecht, et puis aussi les chefs des hôpitaux.
Hein, Paul. Oui, absolument, parce que
c'est un chef, hein,
la ville de Bruxelles, en fait, c'est tentaculaire. C'est tentaculaire, je veux dire, il y a une galaxie ville
on
de Bruxelles.
On devrait l'appeler Claude le poulpe, en fait.
Oh, vous êtes fort. Parlez-en au prince Laurent, s'il vous plaît. Et donc, effectivement, il y a les hôpitaux, il y a le Ezel, on ne va pas en parler aujourd'hui, il y a même les cimetières qui s'exportent, etc., etc. Et puis, il y a la recherche. Et alors, monsieur le bourgmestre, vous avez voulu inviter Françoise Roté. Peut-être nous expliquer pourquoi vous avez pensé à Françoise Roté, qui vient de Bordet. On va en parler, évidemment, plus tard.
Mais parce que Bordet est un des hôpitaux gérés par la ville de Bruxelles. On s'est associé aussi à l'ULB pour créer un grand pôle hospitalier. Et la raison pour laquelle, disons, qui n'était pas simple, on a proposé de déménager l'Institut Bordet de la Porte de Halle, qui est son siège historique, vers le campus d'Anderlecht, c'était les labos de recherche. C'était qu'on était convaincus que... C'est plutôt des médecins qui nous ont convaincus de ça, et pour le dire très clairement, Martine Picard, qui est bien connue, de nos grandes spécialistes mondiales de la scénologie, qui nous a convaincus de dire mais il faut mettre les labos ensemble, il faut être à côté de la faculté de médecine, et il faut que l'hôpital académique et Bordet se regroupent pour cette recherche. Et donc, on a beaucoup parlé de la réouverture de Bordet et de tout ce qui se faisait, mais on n'a pas beaucoup parlé des chercheurs. Or, le cœur du réacteur, si vous me permettez cette expression, c'est la recherche. Si on a choisi de déménager un hôpital, ce qui n'était pas simple pour une commune de se dire « je vais l'éloigner de ma population directe », c'est un choix politique complexe, c'est parce qu'on était convaincus que pour la recherche, et donc pour faire améliorer les traitements sur le cancer, il fallait regrouper nos labos. Voilà pourquoi je trouvais important de mettre en avant nos chercheurs.
Alors, professeur Roté, vous êtes une chercheuse heureuse maintenant dans votre nouvel espace, si je puis dire, dans ce centre d'excellence assez incroyable d'ailleurs.
Bonjour. Effectivement, on est tout à fait ravis d'avoir déménagé parce qu'on se retrouve en fait comme des rois dans 10 000 mètres carrés. Donc on a le quatrième étage du bâtiment. On a une belle vue sur la campagne.
Oui, oui, absolument. Et il y a même un métro qui passe sous les champs.
Et surtout, on est intégré tout à fait dans l'hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'on est proche des patients, proche des médecins, et donc pour faire de la recherche de qualité et pour pouvoir répondre vraiment aux besoins du patient, mais c'est tout à fait ce qu'il nous fallait.
Ça et a l'air plus, tellement bien qu'on a l'impression qu'avant, vous étiez dans une cave ou dans une caravane.
Mais, franchement, c'était pas loin, oui, tout à fait. Donc,
c'est pour ça qu'on peut rendre hommage à ces équipes.
Bravo,
hein.
Ouais, très bien. Donc, beau travail par rapport à ça.
Et maintenant, vous passez au 21e siècle.
Voilà,
passez au 21e siècle dans
un
bâtiment.
On est passé dans la lumière.
Ouais. Voilà, vous êtes dans un bâtiment ultra moderne. C'est fantastique, ce bâtiment.
Nous, on est ravis. Donc, chaque jour, moi, je me lève depuis 15 ans que je fais la recherche. C'est vraiment un bonheur de faire de la recherche. Et ici, on est dans un environnement vraiment exceptionnel où on va d'abord avoir des infrastructures nouvelles. Grâce notamment à l'association de l'Institut Jules Bordet qui investit toujours dans nos installations pour qu'on puisse être à la pointe.
Est-ce qu'il y a de l'aide du privé aussi? Il y a pas mal de fondations qui aident les hôpitaux. Est-ce que c'est important dans un budget comme le
vôtre? Très important.
Oui, donc nous...
En pourcentage, ça veut dire quoi pour avoir un chiffre Philippe Close ou... Ben,
par exemple, l'association Jules Bordet, donc, oui. Qui s'appelait avant les Amis de l'Institut Bordet, je le raconte toujours parce qu'on leur avait demandé de lever des fonds, c'est des grandes familles qui nous suivent depuis longtemps, ils apportent entre 4 et 5 millions d'euros par an pour la recherche à Bordet, bon, le budget de Bordet est environ de 150 millions d'euros, mais donc ça c'est pour le fonctionnement, eux c'est vraiment sur la recherche. Et on leur avait demandé de nous aider sur les équipements de Bordet, du nouveau Bordet. Et j'oublierai jamais ce mail d'Ariane Cambier qui m'a dit « Je t'ai envoyé un mail avec la décision du conseil d'administration une semaine avant l'ouverture. » Et leur chèque pour l'ouverture de Bordet était de 18 millions d'euros.
Voilà,
et donc c'est vraiment c'est plus que des partenaires. C'est pour ça que je dis toujours à l'hôtel de ville, chaque fois que les amis de l'Institut, pardon, l'association Jules Bordet vient à l'hôtel de ville, tu es toujours très avenant. Je dis, écoutez, oui, ce sont des vrais partenaires. Quoi.
Ils peuvent rien faire pour BXFM, c'est ça.
Ceci dit, c'est une bonne question. C'est le financement de la recherche. Et là, François, je crois qu'il faut en parler. Peut-être, on pourrait en parler pendant des heures, évidemment. Mais il ne faut pas croire que ce métier soit tout à fait stable. Je crois qu'un chercheur en Belgique, il ne sait pas comment ça va se passer dans les années à venir, à la limite.
Et un chercheur est ce qu'il trouve aussi. Hein. C'est la célèbre phrase du général de Gaulle, pardon.
Oui, François. Donc le financement, c'est vraiment un problème, en fait, en tant que chercheur. Donc, surtout pour avoir une position, je vais dire, stable. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, soit on doit se retourner vers le FNRS.
Voilà.
Ou alors vers l'université. Donc, moi, j'ai eu la chance cette année d'être nommé à l'université.
Oui,
je suis élu, donc j'ai la chance, mais les postes sont chers. Et surtout, Le nombre de chercheurs est élevé et donc il faut payer de nombreux chercheurs. Il y a les doctorants, il y a les expériences, donc tout ça, ça coûte énormément.
Une bête question, parce que justement, il faut chercher, mais dans quelle direction ? Qui, stratégiquement, vous donne ce qu'il faut chercher ou ce qu'il va falloir chercher ?
On est
dans
un sans oublier la recherche fondamentale.
Voilà, c'est ça, sans oublier la base. Donc, c'est qui vous donne les grandes lignes, les grands fils rouges en disant c'est vous,
elle même.
Ça vient donc, non, mais c'est-à-dire que nous, on travaille étroitement. Moi, je suis biologiste moléculaire, donc on travaille étroitement avec les médecins et les oncologues pour répondre véritablement aux besoins des patients. Donc on essaye, nous, dans nos laboratoires, de comprendre la biologie des cancers, de comprendre la façon dont la maladie progresse, comment la maladie résiste au traitement. Donc voilà, ça, ce sont vraiment des axes de recherche que l'ensemble des équipes de l'Institut...
Il faut signaler qu'il y a également le Télévis qui contribue au financement. Il y a l'Association contre le cancer également.
Et la Fondation contre le cancer, oui, qui soutient plusieurs équipes dans l'Institut.
Donc c'est de belles collaborations. Moi, biologie moléculaire, moi, ça s'est arrêté une boîte de Lego, donc je ne sais pas très bien de quoi on parle, mais je vous remercie en tous les cas de travailler sur notre santé du futur, en plus, celle de nos enfants.
Et puis c'est passionnant d'écouter Françoise, je me souviens d'une interview sur RTL où elle parlait de la biopsie liquide. Et ça,
c'est grossier.
Non, pas du tout. C'est une prise de sang pour savoir où on est un cancer. Je trouve ça assez incroyable, finalement. Ouais. C'est non-invasif, en quelque sorte. Enfin, peut-être on dirait un tout petit mot.
Et puis, une petite interruption.
Donc voilà, la biopsie liquide, en fait, c'est pouvoir suivre en fait l'évolution d'un cancer à travers une simple prise de sang. Donc voilà, c'est assez simple. Pour l'instant, on l'utilise notamment dans le cancer du poumon pour guider le traitement des patients.
Et on peut être fier de nos chercheurs.
Je voulais dire un mot sur ce qui est impressionnant dans l'impact des chercheurs, c'est aussi le travail sur le confort du patient dans son traitement. C'est qu'aujourd'hui, les traitements sont tellement pensés patient par patient, donc c'est pas un traitement global, c'est vraiment comme si vous acheteriez dans un magasin de chaussures et chacun a sa paire de chaussures et sa pointure. Et ça, c'est les chercheurs qui ont permis ça, parce que ce que vous dites sur les biopsies, avant c'était très lourd une biopsie. Ouais. Ici, le fait de faire cette biopsie liquide fait que le patient, il a simplement une prise de sang qui permet de calibrer. Alors, je me permets de le dire, parce que c'est vraiment ça qui est épatant. Et je sais que voilà, souvent on se pose des questions, mais aborder, c'est vraiment une chose énorme, c'est que chaque patient est vraiment d'abord un individu.
Très bien, j'espère que j'aurai une entrée spéciale si un jour il m'arrive quelque chose. En tout cas, j'irai directement chez vous. On se retrouve après un morceau de musique et on va découvrir la véritable vie privée de Philippe.
Ah chouette.
Oula. Teasing.
Oula.
On est dans le Mac politique avec le bourgmestre que tout le monde voudrait inviter à la Noël chez lui pour autant qu'il aille son CST, on verra. Puis on va parler, Paul, de 2030, c'est pas
ben
loin,
oui,
finalement, absolument, 2030.
Le bicentenaire, la Belgique, bon, Bruxelles sera au cœur du réacteur événementiel. Et on demande à chaque bourgmestre d'abord, est-ce que vous vous représentez en 2024 ?
Oui.
Enfin quelqu'un de courageux. Oh,
il a fait une drôle de petite moue quand même.
Non, il a dit oui.
Dans son nom verbal, c'est bizarre. C'est un vrai oui, ça, Paul ? Allez, on va continuer avec ça, oui.
Donc en 2030, vous serez peut-être encore bourgmestre. Et donc vous avez forcément une vision d'avenir. Maintenant, on a parlé du patrimoine, mais parlons de l'avenir. Quel est votre rêve de Bruxelles 2030, monsieur le bourgmestre ?
Le rêve, à un moment donné, c'est qu'il n'y a rien à faire. La précarité sociale m'obsède. Moi, je pense que la meilleure solution par rapport à la précarité sociale, c'est l'enseignement. Donc, c'est le premier budget
c'est le bon
de la
placement.
Ville. C'est la chose sur laquelle, à la ville de Bruxelles, ça m'arrange parce qu'on a beaucoup parlé recherche, de nos hôpitaux, de la police, des événements. Mais en fait, notre premier budget, c'est l'école. Depuis toujours, on est un énorme pouvoir organisateur.
Énorme.
Depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est pas pour rien non plus qu'on s'associe fort avec l'ULB, puisque vous devez savoir que le premier conseil d'administration de l'ULB a eu lieu à l'hôtel de ville.
Et donc, dans votre bureau.
Non, juste à côté, la salle gothique.
Avec Monsieur Verhaeghe.
Voilà, c'était en effet Théodore. Mais l'enseignement est pour moi vraiment essentiel. Et donc, plus on arrivera à ouvrir les portes de l'enseignement, plus on activera l'ascenseur social. Et je pense que on parle de la recherche, évidemment, mais c'est vraiment l'alpha et l'oméga de nos politiques. Alors après, il y a tous les débats qu'on a sur les politiques urbaines. Je pourrais vous parler de la ville à 10 minutes, des infrastructures qu'on construit. Mais l'école, l'enseignement, c'est vraiment mon mantra. Et donc, en 2030, j'espère encore avoir créé plus de places d'école, de permettre à des gens de mieux suivre encore les cours et de permettre d'aller le plus loin possible dans leurs études, parce que je suis convaincu que c'est la clé à beaucoup de problèmes dans nos sociétés.
Évidemment, la position de Bruxelles-Ville est un peu particulière, puisque c'est elle-même un pouvoir organisateur énorme, si je puis dire. Je ne sais pas combien d'écoles dépendent de la ville, mais c'est gigantesque.
Bah, c'est 42 000 élèves, c'est 6 000 profs. Mais par exemple, je vous donnais, et on n'a pas de problème à ce que les autres profitent de nos infrastructures. Je vous donnais un lycée qui est très très connu, qui est le lycée Jacquemin.
Bah, très
le lycée
endroit.
Jacquemin, il y a 6% d'habitants de Bruxelles qui le fréquentent. Bah, et alors ? On s'en moque, on va construire à Tour et Taxi ou à Niederöver en Beek deux écoles secondaires, c'est pas grave que d'autres viennent, du moment qu'on a un travail commun, on est la capitale, donc c'est normal qu'on serve aussi les autres, parce que parfois on dit, mais est-ce que c'est pour vos habitants? Mais peu importe, quand vous êtes capitale pour tout le monde.
Et qui dit école dit professeur, ça a des problèmes aussi pour l'instant. Comment est-ce qu'on peut revaloriser une nouvelle école, une nouvelle manière d'enseigner? On est dans un contexte, et Dieu sait si on se rend compte que...
D'abord, redonner aux profs la valeur qu'ils ont dans la société. Pendant longtemps, on a quand même été fort méprisé quand on était prof. Hein, franchement, quand on était à dîner à table, on disait qu'on était prof, on avait l'impression d'une carrière de relégation. C'est quand même les gens à qui on file ce qu'on a de plus précieux, nos enfants, qu'on construit l'avenir. Ça, je pense que c'est un peu en train de bouger. Après, pour le reste, nous, on a beaucoup investi dans les profs, mais dans les bâtiments aussi, l'équipement, les tableaux actifs, le fait que chaque élève en secondaire supérieur bénéficie d'un ordinateur, du fait que l'enseignement soit de plus en plus gratuit, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement, il est payant. Et donc, on doit réussir justement cette égalité et en effet, on doit s'appuyer sur les pédagogues à qui on confie nos enfants, c'est clair.
Et l'entretien des écoles, c'est mon dada, c'est aussi l'entretien du patrimoine. Oh, si on parle de Jacquemin, Parc Léopold, c'était le jardin zoologique de Bruxelles.
Exact.
Et donc, il y a un superbe patrimoine au Parc Léopold. Hein,
on veut l'étendre, c'est qu'il y a un laboratoire intercommunal qui est là, qui on a demandé de déménager parce qu'on veut étendre Jacquemin. On peut pas construire un nouvel bâtiment parce que ce parc est classé et c'est normal.
Il y a la bibliothèque Solvay également.
La bibliothèque Solvay qui appartient aussi à la ville mais qui est gérée pour l'instant par un concessionnaire. Il y a le musée, l'ancien bâtiment immense qui est devenu le musée de l'Europe qui appartenait au CPS. Donc vous voyez que là-bas on avait beaucoup de bâtiments mais on en a fait profiter la collectivité.
Il faut faire un choix, Philippe Claus. Trois endroits où on peut vous y retrouver.
Oui.
Pour vous poser.
Restaurant
là où vous mangez. Il va falloir faire un choix.
Oui, il faut y aller.
Un bar l'Archiduc, hein. C'est quand même le
vous
bar.
On ne vous y a jamais vu. On n'a enquêté jamais.
Non, jamais été. Discrètement, alors. Parce que j'étais dans le coin. Donc j'attendais.
Il est tout petit, hein, Philippe Claus.
Non, mais les endroits où vous aimez vous poser. C'est quoi?
Alors, j'aime bien dans le milieu de la nuit, j'ai découvert un endroit absolument dingue qui s'appelle le C12. Donc c'est une boîte électro. J'aimais bien le Fuse,
un
mais
truc
le C12
électro.
Qui est sous la gare
centrale.
Vous
voulez vous allonger un petit peu, Philippe Claus? Vous êtes surmené?
Non, j'aime bien la musique, tous les genres de musique.
C'est Rammstein, vous? C'est quoi?
Moi, je écoute des trucs qui font beaucoup plus de bruit. Que Rammstein, les Slayer et tout ça. Donc, il ne faut pas les passer, vous allez faire rire votre
chanson. Je me souviens de votre époque punk, vous avez encore quelques questions.
J'ai eu une époque punk, en effet.
Mais là, on parle du Philippe Claus plus intime, si je puis dire. Oui, c'est la musique qui était un peu le hobby.
J'ai fondé avec des amis un festival qui est le Bruxelles Summer Festival, qu'on n'a malheureusement pas pu faire, le BSF. Là, on a développé un nouveau qui s'appelle Arena 5 au Ezel. Comme je ne sais pas jouer un instrument de musique, il y a deux solutions. Ou être chef d'orchestre, mais souvent le chef d'orchestre savent jouer un instrument de musique.
Vous êtes déjà chef de fanfare.
Et voilà. Ou créer un festival rock.
Pas encore majorette, par contre.
Voilà. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, petite chose que je vous dis, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai une platine absolument mythique qui est la SL1200 MK2, les DJ reconnaîtront, qui est dans mon bureau, juste à côté de mon bureau d'hôtel de ville. Et donc le soir, quand je dois signer, parfois pendant une heure, des signataires, je me mets un vinyle parce que je suis un fan de vinyle aussi. Et je vais me fournir. Ouais, un autre endroit où on peut me retrouver, évidemment, c'est chez Caroline Musique.
Voilà.
Et puis il y a le rugby quand même, on doit parler du rugby. Alors, est-ce qu'il y a un rêve fou de faire un club à Bruxelles, un vrai club?
Oui, évidemment. D'abord, on a 12 000 licenciés en Belgique, c'est vraiment super. On a maintenant de nouveau un joueur qui a été formé. Alors, mon club d'origine, c'est Boisfort qui m'a formé. Puis je suis parti, j'étais un traître à l'époque, on ne pouvait pas changer de club. Je suis parti à l'AZUP, qui était le grand concurrent, qui maintenant est sur Waterloo. Donc vous voyez, mes enfants sont à Waterloo et j'ai joué à Waterloo.
Mais en équipe de France maintenant, il y a...
Alors, en équipe de France, il y a Thibaut Flamand, qui, comme son nom ne l'indique pas, est français, donc, mais qui a fait ses classes d'âge. Ça ne s'invente pas pour quelqu'un qui est maintenant vraiment un des deuxièmes lignes les plus connus en équipe de France. Il a fait quand même ses classes d'âge à Waterloo. C'est quand même, pour un Français, est incroyable. Et donc oui, j'espère qu'un jour, en tout cas en Pro D2, on puisse monter une grande équipe de rugby qui puisse jouer dans le championnat de France.
On aura un jour sur la grande place l'équipe nationale belge avec la Coupe du Monde?
Non, ça sera en hiver. On est 22e mondial. Alors, en rugby, c'est pas comme en foot. Hein.
Non, mais je parle du foot.
Du foot. Ça, je l'espère. J'étais très marri, mais en même temps, c'était plein de justesse des déclarations de Kevin De Bruyne sur le fait que on restait
il
là. en Belgique.
Il s'en bat les couilles, c'est ça ?
Non, celle-là, mais c'est vrai que le moment sur le balcon de l'hôtel de ville, et j'ai pu le incroyable. Vivre avec Alain Courtois notamment, c'était des moments incroyables avec tous ses supporters. C'était fou, quoi. C'était des moments importants. On le sait, c'est des moments qui fédèrent les Belges et le sport. Pour ça, on parlait de 2030. Moi, je suis convaincu, c'est Wilfried Meert, le patron du Van Damme, qui m'a donné cette idée. On doit, en 2030, créer une série d'événements sportifs, des championnats du monde, des championnats d'Europe, qui aient lieu chez nous. On n'aura pas les Jeux Olympiques, on n'aura pas une Coupe du Monde de foot, on n'y arrivera pas. Mais par contre, d'avoir des grands événements sportifs pour la Belgique 2030.
Il y aura du paddle chez Tour et Taxi, ce sera un bel événement qui sera le premier événement mondial, je crois, en paddle, c'est très bien, Tour et Taxi. Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
Merci.
Des heures avec vous. On ira au Cédouze écouter de la musique électro et on sera tous déguisés en punk. J'ai emprunté une vieille casquette à Plastic Bertrand. Paul Grosjean, merci beaucoup.
Mais c'était un plaisir. L'empr- c'est trop court.
Mais je sais, avec Philippe Claude, c'est toujours trop court.
Merci à vous.